On va être ici pour essayer de découvrir un auteur de BD qui est quand même depuis quelques années un des phares de dessinateurs depuis le milieu des années 90, Philippe Buchet. Donc Philippe, on va reprendre un peu ce qu'on a dit hier quand on discutait avec Jean-David Morvande. Bon, tu es à la base un fan de SF quand même, un grand lecteur de littérature de science-fiction, en particulier du space opéra.
Oui, un peu en général quand même. Ouais. J'aime bien l'univers du space opéra parce que ça offre un foisonnement, une liberté, un second degré qu'on n'a peut-être pas dans la hard science ou ce genre de SF un peu plus pointu.
Oui, qui est plus réaliste, alors que là, dans le space opéra, tu as quand même une grande liberté d'interprétation.
Oui, exactement. Ça permet d'avoir des univers qui peuvent se rapprocher par moment du steampunk, de l'heroic fantasy. Donc ça permet une liberté dans le travail qui est assez plaisante, ouais. En moins en dessin. Quoi.
Par contre, dans ton début, tu n'avais peut-être pas une grande liberté de travail parce que je vois que, comment dire, tu avais réalisé une BD science-fiction que je ne connais pas, mais qui s'appelle 2135, l'Odyssée de la retraite. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que ce concept?
C'était une œuvre, je crois que c'était passé par une filiale communication de Glénat, si je me souviens bien, parce que c'était à l'époque où je travaillais sur Nomade. Et c'était un scénario de science-fiction sur une colonie humaine qui n'avait pas de système de retraite. Donc c'était pour expliquer un peu comment fonctionnait le système de retraite, mais sous forme de petites nouvelles de SF. Donc ouais. C'était assez marrant à faire.
Ouais, on peut appeler ça un travail alimentaire, quoi.
Oui, un petit peu, mais c'était quand même assez plaisant parce qu'on avait graphiquement liberté totale. Le scénario était assez libre, il nous permettait une interprétation graphique assez libre. Donc,
ouais. C'est à peu près à cette époque que tu rencontres celui qui va devenir ton, comment dire, pas ton alter ego, mais ton partenaire et le scénariste Jean-David Morvan.
Oui, j'ai rencontré juste un petit peu avant, pour Nomade, qui était une série de science-fiction un petit peu géopolitique. Et où je faisais un peu un travail d'assistant. Okay. C'était mes premières armes dans la bande dessinée. Donc il y avait Sylvain Savoya qui était le dessinateur attitré de la série. Et moi, je m'occupais finalement de tout ce qui était le design de science-fiction, puisque c'était vraiment pas son truc. Donc les machines, les uniformes, les véhicules, bref, toutes les scènes. Et j'ai aussi donné un petit coup de main sur les découpages des scènes d'action. Qui était plus façon manga, puisque c'était une des demandes de Glénat à l'époque, d'avoir quelque chose qui s'approchait du manga.
Okay, ouais, c'est un format un peu intermédiaire entre le manga et la.
Oui, c'était des albums de 136 pages.
Ouais, quand même, ouais, donc fallait quand même.
Donc c'était pour ça qu'être deux dessinateurs, c'était pas mal, puisqu'il fallait faire 136 pages en 6 mois, ce qui est déjà une production assez. Assez lourde.
Assez effrénée, ouais. Donc Nomade a un peu de succès, ça marche pas trop mal, mais sans non plus concurrer à un énorme public. Et avec Jean-David, c'est avec lui aussi que tu fais La Quête des Réponses?
Ah oui, c'était...
Un truc assez rigolo, si je me souviens bien, non? C'était...
Oui, on avait repris, je crois, c'était Chris avant qui faisait une série dans un magazine de jeux de rôle. Il s'appelait Dragon, je crois. Ouais. Et c'était prépublié. Et puis Delcourt avait objectif de faire un album après. C'est des histoires en 3 pages qui passaient dans le magazine. C'était un peu du second degré. C'était vraiment de la BD d'humour sur l'univers de l'heroic fantasy. Et un peu, on cassait un peu les codes.
Oui, c'est ça. Je me souviens de ces questions-réponses. Il y avait une question qui n'était pas très intelligente.
Pourquoi les héros ne prennent-ils jamais de vacances? On voyait les héros en vacances et on s'embêtait pendant 3 pages. Donc, la réponse était...
Voilà. Bon, et puis après, vous arrivez en 98 avec Jean-David. Vous décidez... Enfin, je crois que non. C'est votre l'éditeur Delcourt qui vous demande de faire quelque chose autour du concept et de l'univers d'un space opéra, quoi.
On lui avait présenté plusieurs projets qui étaient finalement plutôt des scénarios de thriller, un peu futuriste. Et comme il avait vu aussi quelques carnets de croquis, lui, il nous a dit, je ne comprends pas pourquoi vous ne faites pas vraiment de la science-fiction pure ou du space opéra. Et donc... parce que les projets, il trouvait que ça ressemblait un peu trop aux univers qu'il avait déjà dans ses collections. Parce qu'il y avait beaucoup de BD, genre Travis, Carmen McCallum, qui étaient déjà sous forme un peu de thriller futuriste, comme ça. Et donc, moi, ça me plaisait énormément, parce que j'avais plutôt envie de dessiner des extraterrestres, des machines, et un univers un peu plus ouvert que de la cyber SF.
Mais donc, ouais, on va expliquer un peu le pitch, la thématique de Sillage. Sillage, c'est un convoi spatial et dans lequel il y a un seul personnage humain.
Oui,
Et ce personnage humain est une jeune fille en plus. Hein.
Oui.
Voilà, donc c'est quand même pas quelque chose d'un héros traditionnel de la bande dessinée. On a souvent des gens, quand des hommes qui sont. C'est une jeune fille, quoi. Elle est quoi, une grande ado, elle a quel âge à peu près?
Oh, elle est pré-ado quand elle est découverte par le convoi, ouais, qui finalement a des vues sur la planète qu'elle occupe. Ouais. Et elle est un peu gênante. Donc il y a un des envoyés sur la planète qui cherche à l'éliminer. Et puis finalement, c'est sa survie qui est racontée dans le premier album. Ouais. Et elle est recueillie par le convoi après comme un peu un spécimen particulier, puisque c'est la seule humaine jusqu'à maintenant qui est dans le convoi, quoi.
Donc ça va t'obliger, on la voit, la Névis, avec l'enfeu, on voit ce personnage.
Oui, ça c'était pour marquer la fusion entre Delcourt et Soleil.
Ah ouais, voilà.
C'était pour le festival Delcourt Soleil, et il m'avait demandé de faire une affiche.
Alors, on va parler, je veux dire que quand on fait de la science-fiction et qu'on va dessiner un personnage, un héros, mais là en particulier une héroïne, graphiquement, comment tu as envisagé ce personnage, comment tu l'as défini? Tu as dû faire plusieurs croquis, plusieurs études, mais après, comment t'es apparu réellement de l'affaire avec ses fameuses tresses? Elle a quand même différentes choses qui sont très féminines. Et de qui t'as pu t'inspirer au niveau dessin? Est-ce qu'on pense à Laureline un peu?
J'avais lu les Valérian, mais je pense que j'étais plutôt parti sur une sorte de Mowgli au féminin. C'est pour ça que j'avais fait une jeune fille assez petite, assez musclée, parce que finalement elle a vécu dans la nature toute sa jeunesse, donc c'était pas une bimbo, quoi. Donc,
ouais, ouais.
Et on avait aussi le challenge avec Jean-David de s'interdire de lui faire un costume type, comme peut avoir Lucky Luke par exemple, avec sa chemise jaune, son foulard, son chapeau blanc.
Le même costume.
Donc c'était le challenge de lui changer de tenue à chaque épisode. Et
on voit bien dans les images qu'elle change de tenue. Ouais.
Et même plusieurs fois dans le même album. C'était assez marrant comme ça. Finalement, c'est pas très... je m'ennuie pas, quoi.
T'ennuies pas, donc tu l'as créé une garde-robe.
Voilà, bah oui. Puis je me dis, bon, elle a il y a des milliers de créatures différentes, donc... La mode peut être complètement hétéroclite. C'était assez amusant aussi de lui changer de ses coiffures, de tourner autour des nattes, d'essayer de trouver à chaque fois quelque chose d'assez original.
Et ces costumes que tu cherches pour Névis, comment tu t'inspires de quoi pour le faire? C'est purement imaginaire ou tu vas fouiller dans une documentation, dans du design?
Je pirate un peu les magazines de ma petite femme. Je, je regarde les tendances de mode. Je m'intéresse aussi au design. Par exemple, pour les scaphandres, je regarde un peu ce qui existe. Et puis, bon, je pense qu'il y a aussi sous-jacent une influence du cinéma et des illustrateurs de SF que j'ai lus dans ma jeunesse.
Alors, en parlant de ces illustrateurs de SF, tu peux nous en citer quelques-uns?
Il y a Manchu, par exemple.
Ah, Manchu,
qui est un maître des appareils et des technologies et des planètes. Il y a Mézières, bien sûr.
Ouais.
Je trouve que son travail d'illustrateur, il est encore plus époustouflant. Je me souviens que l'une des premiers festivals que j'ai fait ici, il y avait une exposition Mézières.
Ah, c'était en 2003, ouais.
Il y avait des superbes dessins.
Ouais,
quoi.
De Jean-Claude, donc,
Il y a Moebius aussi.
Bah oui, à qui tu rends hommage dans ton dernier album, là, parce qu'on voit un petit dessin du Major Fatal.
Le chapeau colonial que j'ai rajouté à Névis, c'était pour faire un petit hommage. Je ne savais pas qu'il allait disparaître, j'avais déjà designé l'album dans ce sens, donc là, je me suis demandé si j'allais le laisser ou pas, mais finalement, je me suis dit, ça serait un hommage, quoi.
Donc, ce personnage de Névis, à dessiner, tout ça... C'est quelque chose, on voit que tu prends du plaisir parce que tu l'as fait bouger, il y a plein de choses à faire. Il y a une différence entre faire dessiner, comment dire, un personnage féminin, le faire bouger, et un personnage masculin dans ce type d'histoire?
Parce qu'on est c'était finalement un peu un challenge sillage dans le premier album, ouais. Puisque déjà Jean-David m'avait mis que des décors naturels, alors que moi je m'attendais à dessiner des intérieurs de vaisseaux spatiaux, des coursives, des machines. Et finalement, tout se passe dans une sorte de planète jungle. Mmh. Et puis, j'avais plutôt, effectivement, au début, on était parti sur un personnage masculin adulte. Mmh. Donc il a fallu que je me cale un peu sur toutes ces contraintes. Donc c'était intéressant, finalement j'ai travaillé. Et puis Jean-David est mort de rire quand je dessine parce que je fais les mêmes bouilles que l'héroïne.
Toi,
oui, physiquement, je fais les mêmes grimaces inconsciemment, je ne m'en rends pas compte. Mais des fois, quand on travaille en atelier, je l'entendais rigoler. Et il venait voir sur la page et effectivement, il y avait la même tête.
Donc, dans ce sillage-là, qui est votre série à succès actuellement et qui on est au 15e album, donc chaque album, vous le construisez comme une histoire complète.
Oui, on essaye, oui.
Ouais, qui se suffit à peu près. Et ça vous implique quand même des contraintes scénaristiques pour Jean-David et toi, des contraintes de dessin et de mise en page pour que finalement, vous arriviez à ce qui est purement utile, parce que vous n'avez que 46 planches, et 46 planches, c'est un peu court, hein, des fois,
oui,
pour raconter
léger,
des histoires, parce que c'est des histoires qui sont quand même complètes, assez riches, et il y a quand même, Jean-David aborde des sujets politiques, des paraboles autour de la planète actuellement, et cette contrainte, tu me disais hier, que c'est finalement quelque chose de riche, d'enrichissant par rapport à ton travail et à ton dessin.
Oui, parce que ça oblige à déjà un travail sur la mise en scène, le découpage qui doit être vraiment très, très abouti, puisque finalement, quand on se retrouve des fois à gérer 15 cases sur une planche, c'est énorme.
Et actuellement, ce n'est pas très courant dans la production de BD, parce qu'on voit beaucoup d'albums qui ont, allez, quand il y a 6 cases par planche, c'est déjà beaucoup, quoi.
Oui, je pense aussi que ça tient au fait que la plupart des séries sont tronquées en épisodes. Finalement, on finit sur une fin de scène et on a la suite dans l'album suivant, alors que le fait d'avoir 46 pages pour raconter une aventure complète, ça oblige à être assez dense. Donc je me prends souvent un peu la tête avec Jean-David parce que j'ai plus de place avec les textes pour mettre des dessins parfois.
Ah bah ouais,
donc
il faut
élaguer un petit peu.
Ouais, en plus ton dessin, quand on regarde les albums, quand on regarde les cases, on voit que tes planches, même tes cases, il y a quand même beaucoup d'informations dedans, il y a des décors, il y a des dessins de personnages, il y a beaucoup de choses, même dans des petites cases, quoi. Il y a beaucoup de choses, donc ça vous oblige, vous, à retravailler, puis à trouver la lisibilité, parce que finalement, des fois, c'est la réduction, comme tu travailles assez grand, quand même. Hein.
Oui, format A2, à peu près.
Format A2, ça fait à peu près...
Ça fait...
4 à 4,
oui. 2 à 3.
2 à 3, ça fait 4 feuilles à 4. Donc, c'est un format assez grand. Donc, toi, tu travailles sur ces formats-là, tu fais ton dessin noir et blanc.
Oui.
Voilà, donc tu organises tes cases. Et après, c'est toi qui fais les couleurs aussi. Hein.
Oui, l'étape, c'est finalement, avec Jean-David, si on prend vraiment à la base, ouais, on fait une sorte de brainstorming. On a, depuis le début de la série, on a pas mal de synopsis un petit peu qui sont notés. Sur, j'allais dire, on a à peu près 5 albums d'avance en général. Et on fait un petit brainstorming, on raconte tous les deux, lui ce qu'il a envie de mettre dans l'album, moi l'univers que j'aurais envie d'aborder un petit peu graphiquement. Et puis après, il écrit un premier synopsis qu'on relit ensemble. Et puis à partir de là, il va écrire vraiment un chemin de fer où les scènes sont découpées en nombre de pages. Et après, il va écrire les pages une par une avec une colonne décor, dialogue, action.
Et donc, alors, mais le document que te donne Jean-David, finalement ton scénariste, c'est un document écrit, c'est dessiné?
Non, c'est écrit.
Donc il décrit la scène, mais je sais pas.
Oui, mais je sais pas.
Page 1, case 1.
Ouais, hall d'embarquement de station orbitale. Finalement, il me laisse libre cours. Des fois, il me dit à toi de voir.
Si tu mets hall d'embarquement d'une station orbitale, toi, tu vas imaginer la station, le hall, et tu vas
construire. Oui, mais finalement, ça va se construire aussi sur les contraintes après de la scène d'action, savoir est-ce que par rapport au nombre de personnages, c'est souvent un peu des fois les petits, ça coince un peu si je commence à dessiner un vaisseau où on peut mettre 3 personnes et que je m'aperçois après qu'il y a une escouade qui rentre à l'intérieur, je me dis bon, voilà, il faut le refaire un petit peu plus grand. Donc,
on peut faire un arrêt sur cette planche. Est-ce que tu peux nous la commenter finalement, nous dire comment tu l'as organisée finalement, pourquoi elle est comme ça?
Là, c'est une planche où les personnages sont dans un vaisseau. Donc c'est assez marrant parce que dans la première case, ils sont chacun dans un petit vaisseau différent. Donc ils évoquent un personnage qu'elle avait sauvé dans une. Donc il y a l'image qui les sépare au milieu, qui est en sépia parce que c'est une sorte de flashback. Et après, finalement, ils évoquent le fait que le personnage, il est conservé dans une sorte de réserve. Donc, j'ai dessiné des sortes de petites biosphères où on peut imaginer que dans chacune, il y ait des espèces différentes. Et puis là, on voit le personnage en question qui va se faire enlever par un mystérieux guerrier là, qui va l'emmener. Et donc, dans les textes, effectivement, Nevis, elle pense que ce personnage-là, qui a une jambe avec une attelle, l'a oublié. Et finalement, on s'aperçoit que non, puisqu'il a dessiné sur le sol, avec son bâton, le visage de Nevis. Donc voilà, c'était...
Alors, on s'aperçoit que quand même, dans cette image, bon, il y a des éléments spatiaux. Et aussi quelque chose que tu disais que tu avais appris à dessiner dans le premier album, c'est quand même les forêts et la végétation, quoi.
Oui, finalement, au début, j'avais tendance à dessiner chaque feuille, chaque petit détail. Bon, là, il y a quand même des détails. Quand on voit dans la case en bas à gauche, il y a la végétation, elle est assez précise. Mais finalement, là, maintenant, par exemple, la case où il y a le gros plan sur la bulle avec le petit lac, où après on zoome finalement sur l'espèce de fiesta là, avec le concert. Finalement, les montagnes, au dessin, il n'y a pas énormément de détails. Et finalement, les volumes sont juste rajoutés à la couleur.
Alors, je vais demander une explication un petit peu plus technique. Est-ce que tu peux décrire case par case, si c'est, en termes de, comment dire, de mise en scène, si c'est quel type de plan tu as utilisé? Si c'est un plan rapproché, plan moyen, tu peux le faire ça ou pas? C'est compliqué.
Bah, on voit au la première case, on va dire que c'est un gros plan, mais pas un très gros plan, parce que je fais souvent des plans sur un œil ou qui sont
très gros plans.
Après, c'est une sorte de plan américain. Après, bah, c'est un plan panoramique d'ensemble. Après, on zoome, donc c'est des panoramiques qui se rapprochent un petit peu plus de chaque élément. Donc, c'est travaillé assez dans un esprit un peu cinématographique, puisqu'on part de la station dans l'espace, on zoome sur la bulle, on zoome à l'intérieur, on finit sur le personnage. Et puis après, on se rapproche encore plus du personnage pour apercevoir le personnage qui a un plan d'ensemble, avec un premier plan de la tête en bas. Et puis après, on a un plan assez serré. Et finalement, quand on fait à des plans serrés comme... la case qui est ici, là, qui est la deuxième en bas, là, ça, c'est des cases qu'on lit plus vite.
Ouais.
Donc finalement, et les cases verticales, on les lit plus vite, plus rapidement, inconsciemment, que les cases horizontales. Donc ça permet, si on veut accélérer à un moment, on peut faire une série de cases verticales assez étroites.
Oui, quand tu fais ça, tu accélères la lecture. Oui,
tout à fait.
C'est-à-dire, on a une lecture,
et si on fait quelque chose de serré, où on ne respire pas beaucoup, on n'a pas d'informations qui parasitent. Là, on voit juste... Le personnage qui se fait kidnapper et on regarde l'image très rapidement parce qu'on comprend en un coup d'œil ce qui se passe.
Ah oui,
et on passe après sur un très gros plan justement des yeux du ravisseur et après on voit ce que lui voit, on fait un champ contre champ finalement.
Ouais.
Et puis après on a la scène où il emporte le personnage
et, puis, la scène à la
et c'est cut après puisqu'on aura
quelque chose mais c'est une scène qui laisse un suspense à le où il va ou c'est qu'il l'emmène.
Oui,
parce souvent moi ça me fait penser presque à ce genre de case, une case RG quoi. Des fois il y a des cases enfin c'est la case qui amène le suspense du temps où
et c'est vrai que Jean-David a une façon de découper à l'écrit assez cinématographique. Il tronçonne ses scénarios, c'est-à-dire on va avoir des scènes qui vont s'arrêter à ce moment-là, on va reprendre une autre scène et puis on aura la suite de cette scène-là quelques pages plus tard.
Ouais, c'est-à-dire là, on arrête cette partie
voilà, de l'histoire. On n'a pas une narration linéaire, ce qui est bien parce que ça ménage des petits suspenses.
Ouais, on va passer à un autre plan de l'histoire et on va les retrouver un peu plus tard. Quoi. Alors, on s'est aperçu quand tu décris tes cases, on s'aperçoit que tu parles d'un langage qui est quand même à peu près le même que le langage du cinéma.
Moi, j'ai plus une culture cinéma, par exemple. Et Jean-David a vraiment une culture de bande dessinée, parce que c'est un lecteur de bande dessinée assidu, puisque quand je l'avais rencontré, il avait pratiquement toutes les nouveautés en BD. C'est un vrai fan de BD. Et je me suis aperçu que ce qui nous différenciait, c'est que lui, il a une vision des images fixes. C'est-à-dire, dans sa tête, les scènes sont composées en images fixes, alors que dans ma tête, c'est un film. C'est-à-dire, moi, j'ai plus de mal à choisir au moment où je vais arrêter l'image que lui, finalement, parce que lui, il a une vision. Donc, c'était assez marrant de voir qu'on a une très bande dessinée, moi, et moi, une plus cinéma, finalement.
Ce ce qui donne une certaine complémentarité à votre travail.
Ouais, ce qui est bien, ça fait que quand moi je surdécoupe un peu, parce que effectivement le problème d'avoir une vision un peu cinématographique, c'est qu'on a tendance à décomposer des fois une action en trop d'images. Mmh. Il me dit on va pas être assez efficace, on va perdre. Si on continue comme ça, il faudra le double de pages, donc ça permet d'aller à l'essentiel.
Non, mais la lecture de la BD, c'est quand même une lecture où entre les cases, s'il y a des blancs, il se passe quelque chose. Alors le cinéma, on a les 24 images par seconde, il n'y a jamais de blanc, il n'y a rien. Alors que ce qui se passe dans la bande dessinée, donc il faut quand même que le lecteur imagine ce qu'il y a entre les cases.
Oui, c'est la bande dessinée, c'est l'art de l'ellipse finalement, parce qu'entre deux cases, il peut se passer une demi-seconde et un siècle. Ouais. Donc c'est ce qui est assez... On peut gérer des flashbacks, des fois une case vient s'insérer au milieu d'une page et c'est une scène qui s'est passée...
Ouais, c'est ça. Alors cette gestion des flashbacks, on va s'arrêter sur celle-là. Cette gestion des flashbacks est quelque chose d'intéressant parce que finalement, il y a souvent des bandes dessinées où le flashback n'est pas très bien dissocié par rapport aux scènes du moment, quoi. Il y a des moments, et ça, c'est comment tu gères ça, toi ? Parce qu'il y en a qui mettent des cases avec les bords ronds, il y en a qui mettent du sépia. Toi, tu gères ça comment ?
J'utilise un peu différentes techniques. Des fois, c'est intéressant aussi d'avoir un moment où... Ça dépend ce qu'on veut, la façon dont on veut gérer le flashback. Ouais. Si on veut que le lecteur ne soit pas tout de suite... dans l'idée que c'est un flashback, je vais la traiter de la même façon. On se rendra compte à la lecture que c'est un flashback, mais c'est le but. Mais des fois, ça m'arrive effectivement de passer les cases à bord un bord de case plus manuel, c'est-à-dire irrégulier, ou des bords arrondis, ou de passer des images en sépia. Ça dépend finalement. Il y a plusieurs degrés de flashback qui peuvent être gérés. Ça dépend si c'est un souvenir du personnage. Si c'est un vrai flashback auquel le lecteur participe vraiment comme narrativement, comme une scène normale. Donc c'est ce qui est intéressant aussi dans la narration bande dessinée, quoi.
D'accord. Donc tu utilises cette technique-là. Donc là, on va s'arrêter là sur ce... Comment on pourrait qualifier ce dessin ?
Ben ça, c'est des genres d'études que je fais sur les coiffures ou les costumes. Donc, c'est des petits carnets de croquis qui sont remplis de...
C'est des carnets de croquis. Alors, par rapport à la BD où tu travailles sur papier, que tu fais crayonner, tu fais un ancrage avec le système, tu le fais...
Avec des feutres, des feutres calibrés.
Tu fais un ancrage au feutre, quoi.
Oui, ouais, d'accord. Feutre pinceau, et pour les aplats, ça dépend des effets. Et puis après, c'est scanné par l'éditeur. Et puis après, je mets en couleur sur les planches scannées.
Alors, mais quand tu fais des études comme ça, tu utilises quelle technique, quel type d'outil ou quelle technique finalement
c'est souvent stylo-bille.
Stylo-bille directement.
Directement. Et puis c'est mis en couleur avec des feutres Pantone, des feutres de couleur. J'aime bien travailler sur des papiers de couleur, effectivement.
Des fonds colorés, quoi.
Je peux rehausser en blanc certains éléments.
On voit les rehauts en blanc sur le masque, là. Ouais. Et là aussi, voilà une autre étude.
Là, c'était sur un papier craft. C'était sur une enveloppe, craft, je crois.
Ouais. Donc là, on voit... Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, nous décomposer un peu le personnage, l'anatomie du personnage, comment tu découpes ça?
Là, c'était un dessin que j'avais fait pour une des cases qu'on retrouve dans l'album.
Ouais.
Et c'était un petit... je me suis... comme j'avais commencé à la faire un peu au pinceau et au feutre, j'avais gribouillé un petit peu sur le truc, et j'ai mis des couleurs pour essayer de retrouver après quelque chose qui soit... Finalement, quand le dessin est jeté, il est plus efficace.
Oui.
Il a un impact, il est plus puissant qu'un dessin bien serti, etc. Donc c'est vrai que des fois, je fais des petits dessins d'ambiance comme ça pour essayer de retrouver les masses de noir et blanc sur après le dessin ancré, pour garder un peu la pêche qu'il y a dans le rough, quoi.
Ouais, souvent quand on voit les dessinateurs qui font leur crayonné après à l'ancrage, j'ai l'impression des fois que il y a quelque chose qui se perd par rapport, il y a une certaine, comment dire, quelque chose d'instinctif qui arrive et qui passe tout de suite et qui a fait, comme tu dis, quand on le sertit, des fois c'est moins dynamique quand même.
Oui, c'est le côté spontané, parce que finalement, spontané, mais par contre suivant les dessinateurs, il faut peut-être des fois faire 20 dessins jetés pour en garder un qui est pas mal, alors ouais. que finalement, si on fait son crayonné, on gomme, on revient. Finalement, des fois, on finit par raidir le dessin. Donc, ouais. Moi, je fais souvent des croquis et après, je les reprends à la table lumineuse. Ok. Quand je bloque sur une case, par exemple, parce que des fois, le format de la case, même si les planches sont grandes, il est un peu... ça restreint un peu le dessin. Et finalement, après, en faisant le dessin hors case, on n'a pas de souci de rentrer dans la... Et après, il suffit de réduire à la photocopie et puis de se recadrer bien dans la case et ça marche.
Bon, alors on s'aperçoit que faire une BD et puis construire sa planche, c'est quand même beaucoup de... Je veux dire, un peu de bidouillage, non ?
Ah bah oui, il y a toujours du bidouillage parce que finalement, il y a beaucoup de corrections entre les planches originales qui sont, par exemple, envoyées. Moi, je fais toujours, après, je profite d'être sur informatique pour changer pas mal de choses.
On va s'arrêter là sur une série d'études là, qui est quelque chose de typique en bande dessinée. Souvent, on retrouve dans des albums... ce qu'on appelle un cahier de bonus sur une édition spéciale. Et on trouve souvent ce type de dessins qui sont pour vous des recherches, des études, des...
Ben là, c'était, oui, les études pour le costume. Ouais. Donc, les costumes, l'équipement. Il y avait la recherche pour le casque. Comme je voulais quelque chose d'un peu... une petite touche un peu rétro, j'avais rajouté la petite moustiquaire derrière le casque. Et puis, le petit clin d'œil à l'animal qu'avait Nevis dans le premier épisode, qui est en petite... en petite figure sur le haut de son casque.
Ah ouais, d'accord, le
petit gros. Et puis après, bon, bah, les petits écouteurs de pilotage, ce genre de choses, puis quelques bestioles qu'on voit pas dans l'album parce qu'après j'en ai fait d'autres. Mais là, je voulais qu'il y ait un côté à la fois safari, mais avec une petite touche féminine. Donc j'essayais de trouver une espèce de jupe culotte.
Ouais, ça fait un peu années 30, les films, voilà, les films coloniaux américains. Là.
Exactement. Ben, je voulais un petit côté un peu légèrement un steampunk dans les tenues, puisque finalement, le truc que j'avais trouvé pour justifier un peu ce look un peu rétro, c'est que c'est son robot qui a... fabriquer les costumes d'après des archives qu'il a retrouvées dans le vaisseau d'origine de Nevis où il y a sans doute des photos. Et il y a un dessin de Moebius qui montre où on voit une illustration avec le major Gruber qui pose avec son fusil devant un animal. Donc voilà, je m'étais dit, tiens, ça serait marrant que le robot il ait utilisé ce dessin pour lui confectionner un costume de chasseuse.
Super. Donc, bon, tu parlais beaucoup de cinéma, donc tu es quand même pas mal influencé par le cinéma. On le voit bien, parce que tu en reparles là. Et là aussi, bon, dans cette image, là, c'est un peu plus flou, enfin, un peu plus mélangé. Il y a différentes choses qui se chevauchent. C'est aussi des études, des recherches, quoi.
Oui, ça, c'est les petits dessins qui ont été faits en amont de l'album. En général, quand Jean-David est en train de travailler sur l'écriture du scénario, comme j'ai déjà le synopsis, j'en profite pour... préparer tout ce qui va être machine, vaisseau, costume pour après pas m'arrêter dans le découpage des planches pour refaire du design, même si ça arrive quand même parce que des fois avec le recul je me dis ce serait mieux de réfléchir à quelque chose de différent, de plus grand, de plus petit, enfin ça...
Donc avant de commencer vraiment à dessiner les cases, soit tu te fais une espèce de catalogue des vaisseaux, des costumes, des personnages, tu fais des choses autour de ça, quoi. Mais tu en as beaucoup comme ça ?
Oui, j'ai des centaines de carnets, oui. Parce que finalement, pour chaque album, je pense qu'il y a plusieurs centaines de dessins amont.
Oui, j'imagine bien, parce que quand on voit le dernier album, il y a plein de personnages. T'as recensé un peu le nombre de personnages que tu as pu inventer ou créer ?
Non, mais c'est une idée, puisque finalement, il y a en préparation chez Delcourt une Bible. D'accord. De sillage qui sera présenté sous forme de guide d'intégration au convoi, donc qui présente pour les nouveaux une nouvelle race ou ethnie qui intègre le convoi les règles à respecter, la monnaie en cours, comment marche la police, l'armée, comment sont gérés les vaisseaux, comment ils sont propulsés. Donc ça sera une façon aussi de mettre un peu à plat l'armature, le squelette de sillage, quoi.
Donc, vous allez préparer. Non, parce qu'il va falloir que tu recenses tout. C'est un travail.
Voilà, bah, du coup, ça me fait un peu peur parce que la personne qui rédige le guide a bien avancé. Maintenant, il va falloir faire un travail colossal d'illustration, de recherche.
Il va falloir que tu crées encore des personnages pour
ça. Il y aura sans doute des créations bah, qui vont se. Par rapport au scénario du guide. Et donc, il y aura, je pense, pas mal de dessins à créer aussi pour ce guide. Ouais.
Donc, on va s'arrêter aussi sur cette planche là qui est assez représentative de ton travail, parce qu'on voit quand même alors, des vaisseaux spatiaux, là, qu'on voit vraiment ton travail sur les machines, qui est assez remarquable. Et on voit aussi le petit robot en bas. Donc, d'où te vient, toi, cette inspiration de tout ça? Tu peux piocher dans le cinéma? On peut parler peut-être de Star Wars ou de choses comme ça, non?
Bah, c'est un peu le souci, c'est que Star Wars a fait vraiment du space opéra. Le truc, c'est d'essayer de s'en éloigner. Déjà, les petits vaisseaux jaunes, là, c'était plus une inspiration de Moebius, parce que je crois que c'est dans le cycle des Dénas, il avait fait vraiment, lui, des bulles toutes simples. Ça. Et je voulais reprendre ce principe de petits vaisseaux boules que je trouvais assez rigolo. Et d'ailleurs, même sa biosphère, là, la mini-planète où elle habite, c'est pareil, c'est une bulle. Donc je trouvais ça assez marrant de travailler tout sur des rondeurs. Et le robot, au début, j'avais créé un robot un peu plus humanoïde. Et c'est Jean-David, il m'a dit, mais non, imagine qu'une race extraterrestre ait créé un robot à son image. Il n'aurait pas forcément deux bras, deux jambes. Donc j'ai designé un extraterrestre et puis j'ai fait le robot qui correspondrait à peu près. Et j'ai essayé de lui donner, comme c'est un robot qui est à la fois un peu, c'est un peu le majordome de Nevis, et il a un petit côté un peu chien fidèle, je lui ai fait une tête vraiment un museau de chien. Quoi.
Ouais. Donc là, on retrouve les personnages. On voit Nevis, tu as même travaillé sur toute sa garde-robe, parce que là, tu vois, on voit que tu as designé ses sous-vêtements.
Ben là, des sous-vêtements de sportive.
Des sportifs plutôt.
Mais c'est marrant de designer son intérieur, par exemple. Donc, il y a des petits mobiliers qui sont très 70s, parce que j'aime bien cette époque. J'aime bien la vision qu'on avait du futur dans les années 70. Il y avait une profusion de couleurs, de formes géométriques qui étaient intéressantes. Donc, on peut voir dans son petit appartement, la case en bas à gauche, qu'elle a des fauteuils qui peuvent être tout à fait qu'on peut tout à fait retrouver dans un mobilier
des années 70 quoi.
Des années 70, donc c'est assez marrant quoi de faire. C'est finalement ce qui est intéressant dans le space opéra, c'est qu'on peut mélanger beaucoup beaucoup de choses. C'est pas choquant puisque finalement il peut y avoir du mobilier complètement différent, puisque vu le nombre d'extraterrestres et de civilisations différentes qu'il y a dans le convoi, il peut y avoir des choses complètement différentes. Donc moi, c'est ce qui me plaît. Ça me permet de toujours faire des choses, d'avoir une liberté un peu plus grande dans la création des vaisseaux et des costumes et des intérieurs, par exemple. Ouais. Comme
là. Non, vous avez juste besoin d'être crédible. Vous n'avez pas besoin d'être réaliste. Vous n'avez pas besoin de... Comme tu dis,
c'est oui, parce que le space opéra, il n'est pas crédible dans l'absolu. Finalement, personne dans le futur, je pense, ne... conduirait un vaisseau avec un volant comme elle le fait ou manuellement, donc il y a plein ce serait des IA qui piloteraient toutes les machines, mais on perd un petit côté finalement nous on travaille sur un prérequis du lecteur qui est pas forcément un lecteur de science-fiction. Donc le lecteur, s'il voit quelqu'un grimper dans une machine, empoigner un truc de commande et le vaisseau il décolle, il a tout de suite compris ce qui se passe. Alors que s'il s'assoit et puis que il est obligé de, il dialogue avec l'IA, on va avoir une autre forme de science-fiction qui va être un petit peu plus pointue. Mais moi j'aime bien le petit côté un peu amusant du space opéra.
Ouais, parce que l'autre jour j'ai envoyé Roland Lehoucq, et le nouveau président du festival, qui commentait un dessin de Manchu qui était un dessin de space opéra comme ça. Il disait que le rapport entre la taille des vaisseaux, enfin la taille des vaisseaux qu'il avait fait et les personnages était actuellement pas possible.
Oui, ben
voilà,
oui.
Parce que les vaisseaux, on ne sait pas les manipuler actuellement. On n'a pas la technologie actuelle ne peut pas leur faire manipuler des trucs énormes comme on décrit dans la guerre des étoiles, des choses comme ça, quoi.
Oui, bien sûr. De toute façon, il faudrait les construire déjà en apesanteur. Et puis, puis ils seraient soumis à des forces de gravité quand ils approchent des planètes qui les disloqueraient. Enfin, il y a plein de choses. Bon, après, on peut toujours trouver une explication. Ils peuvent avoir des champs de force qui les maintiennent dans leur intégrité.
Oui, non, mais ça, c'est le rôle de l'auteur.
Oui,
après,
c'est, donc voilà, c'est, finalement, c'est agent David aussi, des fois, quand on a des petits moments où ça frotte un peu là, de trouver une idée pour que ce soit justifié, que ça passe. Donc
une explication crédible, quoi.
Oui, qui viennent pas plomber l'intrigue en explication de 2 heures. Donc il faut pouvoir résumer en une phrase un problème que le lecteur peut se poser en disant mais pourquoi, et puis finalement non, une réplique, c'est ça qui est intéressant.
Il ne faut pas qu'il y ait en bas l'Astérix avec toute la théorie de physique ou d'astrophysique qui fait que le véhicule...
Non, mais c'est une autre science-fiction qui est intéressante aussi. Je lis aussi des romans. Il y avait Banks qui avait fait tout un roman sur des vaisseaux de combat intelligents qui est vraiment proche de la hard science, mais qui est bien aussi. Mais finalement, chacun son créneau. C'est ce qui est bien avec la science-fiction, c'est que c'est très, très large.
Après, on essaye de faire l'inverse. J'ai vu, moi, une fois, une conférence d'un monsieur qui nous expliquait pourquoi comment la fusée de Tintin, finalement, tout ce qu'avait raconté Hergé était physiquement possible. Je ne sais pas si ça tenait la route. Hein. Mais il nous avait raconté ça. Quoi. C'était assez extraordinaire. Alors bon, maintenant, on va revenir un peu à ton travail de dessinateur. Donc, après le dessin, le noir et blanc, il y a les couleurs. Alors, les couleurs, il y a au siècle dernier... On les faisait à la main avec de la gouache, avec plein de choses.
On les fait toujours. Je connais plein d'auteurs qui continuent à les faire.
Ouais, ce qu'on appelle en couleur directe, presque. Ça, ils font plus que de la couleur directe. Tandis que toi, tu faisais sur des bleus et tu les reproduisais. Alors maintenant, poser une question. Est-ce que le fait d'utiliser un ordinateur et les nouvelles technologies numériques a changé ton travail ou pas à ce niveau de couleur?
Finalement, quand on a un nouvel outil comme ça, le principal problème, c'est de se calmer un peu. C'est-à-dire, si on rentre dans un studio, il y a un super aérographe, plein d'outils de travail, on va vouloir utiliser un petit peu tout, et après on s'aperçoit que c'est une erreur parce que ça alourdit le dessin. Donc finalement, moi, je me suis vraiment obligé à essayer de reproduire quelque chose qui pourrait être des couleurs manuelles, en profitant de l'aisance de l'outil informatique. C'est-à-dire avoir des couleurs assez simples, des ombrages qui sont juste en 2 tons, parce que j'aime bien le fait qu'à part sur la couverture où là on a plus un rendu qui s'approche d'une peinture finalement.
Ouais, là oui, c'est un rendu plus peinture.
Et là vraiment je peins avec ma tablette graphique. Là aussi les couleurs sont plus réalistes entre guillemets que dans l'album.
Ouais, d'accord.
Mais je pense que ça, après, si on a quelque chose qui est trop proche de l'illustration à lire, on a moins de fluidité. Enfin, moi, c'est ce que je trouve.
Ouais, il faut que toi.
J'aime bien avoir des couleurs un peu plus simples. Mmh. Et puis, pour les illustrations, les affiches, les couvertures, une mise en couleur un petit peu plus
flashy.
Et d'ailleurs, il y a même des auteurs qui faisaient des couleurs presque en aplat, et dans les couvertures, on a un rendu peinture. Même si on prend des 13, par exemple,
c'est
tout à fait le bon exemple.
Ouais.
On a vraiment une illustration de couverture qui est faite à la main, à la peinture.
Ouais.
Et puis, à l'intérieur, on a des couleurs qui sont proches des aplats. Quoi.
Donc là, on voit que sur ce dessin, tu as travaillé des couleurs assez douces, en étant un peu pastel, là, finalement.
Oui, parce que là, c'était un petit dessin pour accompagner un carnet de croquis. Donc là, les couleurs, elles ont été faites au feutre. Donc avec juste quelques tons utilisés, du rouge, du jaune et un petit peu de une couleur chair, un petit peu pour Néviste. Donc
finalement l'informatique, l'outil, on se rend compte quand on voit plein de bandes dessinées que l'utilisation de l'informatique, il y a souvent une uniformisation des couleurs et des techniques. On se rend compte qu'il y a des dégradés un peu l'aérographe, enfin des trucs qui ressemblent. Et finalement, il y a beaucoup de BD qui, à ce niveau-là, se ressemblent énormément. Quoi. Alors que les tiennes, elles gardent quand même les particularités des premières. On va s'arrêter là. Bon, sur cette planche, on voit bien. Tu peux nous expliquer après les couleurs que tu as choisies là?
Là, on avait. Souvent, j'essaye de marquer. Par exemple, en haut, j'avais choisi une ambiance rouge parce qu'y quitte un hôtel. Et pour marquer vraiment la différence entre l'intérieur et l'extérieur, j'avais travaillé des tons plutôt rouges. Et l'extérieur, comme je voulais donner un quartier un peu moche, un peu grisâtre, j'ai travaillé en gris, j'ai rajouté de la pluie, finalement, qui sont des petits gribouillis que j'ai fait sur une feuille en noir et que j'ai rajouter en blanc. C'est tout l'avantage finalement de l'informatique, c'est pouvoir. Mais je l'ai fait manuellement. C'est pas un effet Photoshop. C'est j'ai griffonné des petites lignes au très fin et puis je les ai replacées juste en blanc sur le dessin. Et donc comme ça, ça donne cette petite bruine là qui tombe. Et puis on a une ambiance un petit peu à la Blade Runner, quoi. Ouais. Une ambiance de rue avec des néons. Mais je voulais qu'il n'y ait pas un côté flashy, que ce soit assez éteint. Ouais.
On voit bien le ciel, il est bleu avec des
nuages. Il y a des poubelles.
Le bleu
et ça, c'est une influence de Marseille, je crois.
Les poubelles
ouais, les grosses poubelles qui traînent partout. Poubelles,
hein. On voit bien le ciel est plombé, il est bleu nuit avec des nuages noirs. Ouais, on retrouve vraiment bien dans l'ambiance. Puis ce personnage qui arrive à la fin, là. En moi, ça me fait penser à ce type de personnage, quand même, des personnages que j'ai vus dans Valérian, quoi, dans Star Wars, quoi.
Oui, je pense que ça se retrouve, finalement. Ouais, ouais. Il y a tellement d'extraterrestres à gérer qu'il y a forcément des moments où on a des raccords qui se créent, ouais. Même si on essaye de... c'est toujours le truc le plus affreux, c'est quand on fait un truc et qu'on voit le film qui est en même temps, ouais. On le savait pas... On a fait toute une scène de Sénat, ouais. Une sorte de grande, ouais. Réunion dans Sillage, et au même moment, il y avait Sillage qui sort avec une grande scène là, dans la guerre des clones, où il y a un Sénat avec des petits modules où il y a toutes les personnes, et c'est exactement ce que j'avais designé. Ouais. Donc je me suis dit, est-ce que je change ou pas? Mais c'était trop tard. Donc, mais c'est marrant, je me dis, on se retrouve finalement.
Ouais, y a des rencontres.
On est dans un univers proche, donc il y a forcément des moments où il y a une sorte de fusion qui se crée, ouais. Parce que c'était le truc qui me semblait le plus logique.
Ouais, non, c'est bien. On voit bien ça, ce travail là-dessus.
Donc le designer de Star Wars aussi, ça lui semblait le plus logique.
Ça lui semblait logique aussi de faire ça. Et maintenant, me poser des questions. Bon, tu vas continuer la série Star Wars. Tu as fait un jour J aussi chez Delcourt.
Sillage, je vais continuer la série. C'est Disney maintenant qui va continuer la série Star Wars.
Star Wars, c'est Disney, ouais. Donc tu avais fait aussi un jour J, qui est un exercice un peu complémentaire, quoi. C'est un peu...
Bah, c'était pas mal parce que c'est une science-fiction, c'est une uchronie, donc c'est une science-fiction, mais il y avait très peu d'éléments de science-fiction à dessiner, puisque finalement c'est les Russes qui se posent sur la Lune. Mais par contre, c'était un travail de documentation énorme finalement, parce que je me suis aperçu que la moindre rue de Moscou qui devait être dessinée, il fallait trouver une photo, la moindre voiture. En plus, c'était dans les années 70, donc il fallait trouver les véhicules de l'époque et antérieure pour remplir les rues, et même le paquet de cigarettes russes, les bouteilles d'alcool. Enfin, il faut réunir une documentation énorme, finalement, dès qu'on commence à travailler une bande dessinée réaliste, en plus dans une époque donnée. Et je me suis dit, vraiment là, il y a plus de temps passé à réunir des photos qu'à dessiner, et c'était un peu lourd.
C'était un peu plus lourd, moins de plaisir à le faire que de faire
ça. Ça a été agréable, parce que ça changeait d'univers, c'était marrant. Mais c'est vrai que après, les délais se sont rétrécis énormément, donc ça m'a coûté des nuits blanches pour terminer l'album dans les clous, quoi.
D'accord. Bon, écoute, je crois que... Est-ce que tu aurais un dernier commentaire sur ce dessin? On voit Nevi s'attaquer par...
Finalement, ce dessin, il y a eu, je sais pas, une cinquantaine d'études différentes. Et puis finalement, j'ai fini par me rapprocher de plus en plus des deux personnages. Ouais. Parce qu'au début, la première version, je voyais les personnages en pied.
D'accord.
Finalement, qui soulevaient Nevis du sol. Ouais. Et finalement, là, on sent l'impression qu'elle est soulevée du sol. Et c'est beaucoup plus efficace d'avoir le face-à-face avec l'extraterrestre et Nevis. Donc là, on sent vraiment la menace, et j'essayais de lui garder une expression bien déterminée, c'est-à-dire elle a pas perdu le combat, quoi. Elle reste en air de défi, donc c'était finalement ce qu'on voulait donner, puisque finalement tout l'album, cet album-là, le 14, c'est un duel, donc il fallait symboliser l'idée de l'album en une image, ce qui est toujours très difficile.
Très,
les couvertures, c'est vraiment, un des moments le plus difficile, parce que même si parfois elle plaît aux auteurs, elle plaît pas à l'éditeur, elle plaît pas au marketing.
Oui, vous avez
donc
cette contrainte.
C'est qu'il est soumis aux libraires, les libraires ils disent ça nous est arrivé aussi d'avoir une couverture qui avait un bon impact, mais il y avait un autre album qui reprenait exactement les mêmes codes, la même couleur, le même cadrage. Donc finalement, il fallait refaire une autre.
Ouais, c'est vrai que vous avez refait des couvertures des premiers sillages, non ?
Oui, après, finalement, j'avais fait la couverture du premier sillage. C'était un plan assez éloigné. On voyait une contre-plongée dans un espèce de puits où on voyait le personnage qui attaquait Nevis, et Nevis recroquevillé dans un coin. Mais mon idée de départ, c'était de faire une poursuite dans la forêt. Mais l'éditeur, sa volonté, comme la série démarrait, c'était d'avoir quelque chose qui soit très typé science-fiction. Alors que finalement, si on voyait une ambiance de jungle avec une sauvageonne qui court et puis une sorte de monstre derrière, il avait peur qu'on ne sache pas, que le lecteur ne sache pas à quoi s'attendre. Ce D'accord. que je trouve intéressant aussi, surtout pour une première série. Mais finalement, quand on a réédité dans une nouvelle collection avec un nouveau titrage, j'ai repris l'idée, finalement, la couverture que je voulais faire au départ. C'était une nouvelle couverture, je l'ai refaite, je n'ai pas repris un ancien dessin. Mais finalement, c'était assez proche de ça. Puisqu'on a Nevis qui saute sur une branche, on a une ambiance verte et on a la silhouette du personnage derrière. Et je trouve qu'elle a plus d'impact que la première.
Bah écoute, on va conclure avant de laisser un peu la parole au public. Peux-tu nous donner quelques révélations sur le prochain sillage ou pas? Vous avez déjà une idée avec Jean-David?
Bah, à la fin du dernier sillage, on a un personnage, on a une révélation sur il y a un deuxième humain finalement le convoi. On a une révélation sur qui il est. Et puis voilà, on en saura un peu plus comment il peut exister, qu'est-ce qui s'est passé dans le prochain épisode. Donc voilà.
Ok. Ben merci Philippe. S'il y a quelques questions dans l'assistance. Oui.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Quand vous aviez commencé avec Nomad, c'était dans une collection axée manga. Il y avait notamment eu Akira. Et quelle influence a eu le manga sur votre travail? Notamment ces dernières années, parce que je crois que vous avez passé pas mal de temps au Japon. Voilà.
Oui, comme mon t-shirt l'atteste. je pense, finalement, moi j'ai découvert vraiment le manga avec Jean-David quand on s'est rencontrés. Parce que c'est vrai que je lisais, je travaillais beaucoup et je lisais peu de bandes dessinées, très peu, et j'avais un peu lâché le comics. Et le manga, j'avais aperçu deux, trois mangas, mais je ne m'y étais pas plongé. Et finalement, Jean-David, qui a une collection, c'est une vraie bibliothèque, il a une collection incroyable, donc il m'a passé effectivement les bandes dessinées de Masamune Shirow, qui faisait Appleseed, par exemple, qui est graphiquement superbe, et puis Ghost in the Shell, et puis le Akira, qui était vraiment une claque de mise en scène, là, vraiment. Je pense à énormément de dessinateurs. Et puis, il m'a passé aussi pas mal de comics. Et finalement, j'ai ingurgité tout ça. Et je pense que ça a influencé toute la mise en scène de Sillage maintenant, qui finalement emprunte parfois aux comics, parfois aux mangas, dans le style narratif. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question.
Bonjour, vous parliez tout à l'heure de la Bible de Sillage et j'aurais voulu savoir s'il y avait une date en cours, si vous connaissiez la date de délai et si vous aviez votre mot à dire sur le projet, si vous suiviez ça de près.
La Bible Sillage ?
Ouais, la Bible Sillage.
Oui, parce que finalement ça a été un projet qu'on en avait eu l'idée au tome 10 déjà et puis on s'est aperçu que c'était un travail assez colossal. Et Jean-David étant assez accaparé par les nombreuses séries qu'il scénarise, il ne se sentait pas de travailler. Donc finalement, on travaille avec un rédacteur qui est quelqu'un d'assez sérieux, donc ce qui est pas mal parce que pour aller repointer toutes les espèces, la gestion, par exemple, comment le temps est géré dans Sillage, la notion, l'unité de temps, par exemple, tout ce genre de choses, la monnaie qui gouverne vraiment, et savoir si Sillage, il n'y en a qu'un ou s'il y en a plusieurs. Donc finalement, c'est un échange permanent qu'on a avec le rédacteur. Il s'est plongé aussi beaucoup, il faut qu'il ait lu tous les sillages, toutes les chroniques, parce qu'il y a aussi d'autres éléments d'informations sur la gestion du convoi dans les chroniques. Et finalement, c'est un échange permanent. J'ai encore, 80 pages à lire, là. Donc, il faut que je m'y mette. Et c'est pour ça que ça sera un travail d'assez longue haleine, je pense, pour que ce soit à la fois plaisant à lire, parce que je trouve le concept de ne pas faire simplement une Bible, mais vraiment comme de faire quelque chose qui s'adresse à une personne intégrant le convoi, je trouve que son idée, elle est très bonne. Et en plus, on a rajouté une deuxième écriture. C'est finalement, on a pris ce guide en rajoutant des annotations de la personne qu'il possède. Donc, on saura que c'est pas le guide vierge, mais la personne a fait des petits commentaires sur. Parce qu'il y a une sorte de propagande quand même, parce que c'est le guide officiel du gouvernement de sillage, mais la personne, elle parle pour elle-même, elle s'est mis des notes sur la corruption, sur plein de choses qui existent aussi, mais qui sont pas écrites dans un guide officiel. Donc
on saura qui est ce personnage ?
Oui, on le saura, oui.
On le saura.
Mais je peux pas trop en dire.
Bonjour déjà. Je suis sillage depuis très longtemps et c'est vraiment une série qui me plaît. Et ce qui déjà m'a accroché au début, c'était le côté très multivers où on a un personnage principal justement, après Bobo qui vient se remettre dessus, et où on change d'univers complètement, avec une trame filée qui, j'ai l'impression, augmente au fil et prend de plus en plus de place dans l'histoire. Et c'est vrai que les derniers sont très dans l'univers de sillage et plus sur des univers extérieurs. Est-ce qu'on va avoir des retours aussi de temps en temps sur des univers qui n'ont rien à voir avec sillage, sur des choses très différentes?
Oui, parce que finalement, c'est un peu le thème, enfin le concept de sillage, c'était de naviguer d'un univers à l'autre, d'une civilisation complètement différente. Mais c'est vrai que il y avait toute une intrigue un peu, pas d'espionnage, mais un petit peu finalement de personnes corrompues à démasquer, finalement, qui traînaient. Et puis, les Nevis étant toujours à la recherche de ses origines, il y a aussi ce fil conducteur qui reste. Mais on aura, par exemple, le prochain épisode, il se passe entièrement sur le convoi qui est menacé directement par des entités. Et donc, là, ce sera marrant de faire quelque chose qui se passe uniquement dans les vaisseaux. À l'intérieur de tous les vaisseaux, on va connaître un peu plus sillage en profondeur, donc ce qui est plaisant. Mais celui d'après, il retournera sur une des planètes du troisième tome. Donc, ce sera assez marrant aussi de faire une sorte de retour. Et finalement, on a un univers bien riche maintenant. Et c'est assez marrant, des fois, quand Jean-David crée un nouveau personnage, on se dit « Ah ben non, pourquoi on ne prendrait pas tel figurant de tel album, finalement, qui avait une petite place ?» Et de l'étoffer un peu, voilà.
Ouais, pour faire devenir un personnage
important. Plus la série avance, plus on a de sources scénaristiques importantes. Donc ça, c'est vrai que ça sera dur d'arrêter à un moment, mais il faudra le faire.
Hier, vous me disiez que vous avez encore 15 albums à faire.
Oui, on avait prévu, au début d'en faire 3. Donc on avait écrit le début et la fin. Il y avait un album au milieu, puis une grosse ellipse, et à la fin, on avait la fin de sillage où Nevis était déjà très âgé. Et finalement, on s'est dit, si ça marche, on remplira les trous. C'est-à-dire entre le 1 et le 3, on en fera plusieurs. Et puis finalement, là, on a tellement de petites intrigues qui sont déjà notées sur le carnet de scénario qu'on se dit, si on en fait une trentaine, ce sera un maximum, mais ce sera pas mal. Quoi. Ce sera bien.
Le personnage de Nevis,
c'est une saga. Quoi.
Ouais, c'est une grande saga. Mais le personnage de Nevis, c'est un personnage, quand même, une dernière question, qui avance, qui vieillit dans le temps. Comment tu gères ça graphiquement ?
C'est vrai que c'est pas évident, mais je pense qu'on voit bien, quand on prend le premier tome et le dernier, la différence, personnage. Mais finalement, nous, ce qui nous intéressait, c'est de la faire mûrir psychologiquement plus. C'est-à-dire de la confronter tout le temps à des dilemmes. Finalement, c'est elle est en quête d'intégration, elle est dans un univers où elle n'a pas de repères, elle n'a pas de modèle. Elle s'est créé un idéal des humains qui lui sert de modèle, et finalement, en se rendant compte de tous les mécanismes difficiles qu'il y a dans une civilisation, c'est bien de la confronter toujours à des choix cornéliens. Et on lui fait pas de cadeau. Je ne sais pas si un humain normal ne pourrait pas déjà lâcher la bride. Elle a une volonté farouche, on va dire. Ouais.
Bon. Merci Philippe.
Merci à vous.
me up in the cage.
Up in the cage.
Yeah, the